Ce matin, j'aimerais centrer mon message autour d'un sujet qui fait l'actualité dans tous les médias. Et ce sujet, c'est bien l'immigration. Je dis l'immigration parce que ces derniers jours, le continent européen fait face à une vague importante d'immigrés qui fuient leur pays. Et pour essayer de trouver refuge dans certains États européens. Homo homini lupus, disaient les Latins. Littéralement traduit, c'est un vieux dicton. Cela signifie l'homme, c'est un loup pour l'homme. Malheureusement, dans le temps actuel où nous vivons, ce dicton se justifie encore. À notre époque, une époque dite moderne, oui, une époque dite moderne où l'humanité fait penser à une jungle, où le plus fort a toujours raison. Il y a des conflits qui naissent un peu partout. Parfois, à partir des causes minimes, ou bien enfantine, je pourrais dire, telle qu'une querelle entre deux voisins, une bagarre peut-être entre deux gamins sur le chemin de l'école, ou après un match de football. Très souvent, toutes ces mésententes finissent par la marginalisation ou par des épurations ethniques ainsi que des guerres. C'est pour ça que certains fuient leur pays pour venir jusque vers nous en Europe. Tout cela nous montre, chers frères et sœurs, comment la nature de l'homme est affectée par le péché. Et en conséquence, les victimes de la méchanceté de l'homme cherchent un lieu de refuge. Ils cherchent un cœur qui console. Ils cherchent des mains qui peuvent les aider. Bref, ils cherchent un havre de paix. Dans cette poursuite, certains se voient satisfaits de quelque façon. Mais d'autres se font de plus en plus repousser ou subissent davantage des méfaits. Il y a certains États qui ouvrent leurs frontières pour les accueillir, pour les recevoir. Il y en a d'autres qui ferment leurs frontières et qui n'hésitent même pas à durcir leurs lois pour essayer de jeter en prison ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient leur pays pour essayer de trouver refuge en Europe. Devant ce genre de situation, nous ne pouvons pas rester indifférents. En tant que serviteurs et servantes de Dieu. Pour nous, chers frères et sœurs, il y a une opportunité à saisir. Il y a une occasion qui nous est offerte. C'est de rencontrer ces personnes et de présenter à ces personnes le Dieu de toute consolation, qui est mon abri, qui est votre abri, qui est notre solution au temps de malheur. Pourquoi nous devons profiter de cette occasion? Parce qu'il y a un facteur qui joue en notre faveur, qui les prédispose à nous écouter, parce qu'ils ne sont plus chez eux, ils sont en terre étrangère, ils vivent dans l'incertitude. Alors ils sont à l'écoute de tout le monde. Ce qui n'aurait pas été le cas dans leur pays d'origine. Car dans certains pays musulmans, la prédication de l'évangile et la conversion au christianisme sont formellement interdites par la loi. Les contrevenants s'exposent à des sanctions très sévères. Dans certains pays, la conversion d'un musulman au christianisme est passible même de peine de mort. Puisque nous devons annoncer l'évangile à ces gens, ma question c'est comment y parvenir? Et pour pouvoir répondre à cette question, je vous invite à ouvrir votre Bible avec votre Bible dans l'évangile de Marc, chapitre 6, le verset 32. Marc, chapitre 6, le verset 32. Jusqu'au verset 44. Marc, chapitre 6, verset 32, jusqu'au verset 44. Je lis. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens le virent, les virent, s'en allèrent et les reconnurent, et de toutes les villes où accourut à pied, et on les dévança au lieu où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Ils ont acheté des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? » ?»« Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur les vêtres. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent, furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. L'évangéliste Marc nous parle ici de la multiplication des pains. Mais dans les versets précédents, le verset 32 jusqu'au verset 44, nous voyons que Jésus ordonna à ses disciples de venir à l'écart avec lui pour un court repos. C'était un repos bien mérité parce que les 12 revenaient de mission. Et les gens qui étaient là, qui écoutèrent Jésus parler à ses disciples, devinèrent leur destination et les devancèrent à pied. Et le repos planifié fut interrompu. Dans le verset 34, quand Jésus arriva sur le lieu, Voyant la foule, la Bible dit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour la foule. Pas de mécontentement, mais de compassion. Et cette émotion le pousse à les aider. Parce que le Seigneur les considérait comme des brebis sans berger, perdues, incapables de se défendre, sans guide, sans nourriture, ni protection. Et la première chose, le Seigneur se mit à leur enseigner. Et la deuxième action de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, après l'enseignement, il leur donna à manger. Ma question, c'est comment y parvenir? Eh bien, dans les versets que nous venons de lire, le Seigneur nous donne l'exemple. Face à cette foule, face à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient leur pays à cause de la guerre, à cause de certaines croyances religieuses parfois, en tant que chrétien, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous ne pouvons pas rester indifférents. Et nous devons nous manifester, ces gens. Et nous devons leur montrer de la compassion, comme le Seigneur avait compassion pour cette foule. Avant toute chose, ces gens, c'est des victimes. Ils sont des victimes. Victimes de la méchanceté des autres. Victimes de la méchanceté de certains dirigeants. Victimes de la méchanceté des groupes dits religieux. Ces gens ont besoin de compassion. Et c'est notre rôle à nous en tant que chrétiens. Et ils doivent trouver cette compassion parmi nous, en tant que serviteurs de Dieu. Notre Seigneur nous a donné l'exemple. Et il nous recommande d'être plein d'amour fraternel. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. L'amour, c'est concret. Le Seigneur nous a donné l'exemple parce que c'est par compassion qu'il a accepté de venir jusqu'à nous. C'est par compassion qu'il a accepté de s'abaisser jusqu'à nous. C'est par compassion qu'il a opéré des miracles, des guérisons pendant son ministère. C'est par compassion qu'il a prôné aussi l'unité. Il a condamné le racisme et d'autres antivaleurs de ce monde. C'est par compassion aussi qu'il a subi la mort à la croix. Parce que dans Jean 3, verset 16, il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde. » Où était Christ avant? Il était dans le ciel, à côté de son Père. Des myriades d'anges à son service. Mais il a accepté d'abandonner tout ce privilège. Par compassion. Pour venir jusqu'à nous, pour nous libérer de nos péchés. Sans cette compassion, nous ne serions pas libres aujourd'hui. Sans cette compassion, nous ne serions pas là aujourd'hui pour adorer le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimés, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons montrer aussi notre compassion aux autres. Et la compassion doit être aussi le fondement de tous nos actes. Aider les autres, non seulement avoir de la compassion, non seulement les enseigner, non seulement les aider, non seulement les enseigner, mais nous devons les aider. Et la deuxième action que le Seigneur a fait, après, il les a donné à manger. Il ne suffit pas seulement de leur parler, en tant que serviteur et servante de Dieu, Mais il suffit de les aider à sortir dans cette situation-là. La deuxième action, le Seigneur était près de la foule. Il leur parla. Il était en contact avec la foule. Nous aussi, en tant qu'Église, en tant que représentants de Jésus sur la terre, parce que le Seigneur n'est plus sur la terre, il est au ciel. C'est nous qui représentons le Seigneur. Nous devons maintenir des contacts avec ces gens en leur faisant savoir que Dieu n'a pas destiné l'homme à la souffrance. Parfois, quand on se trouve dans une situation difficile, on a tendance à parler un peu, à dire pourquoi moi, est-ce qu'il y a un Dieu? Mais c'est un drôle à nous de faire savoir aux gens que c'était pas dans le plan de Dieu pour que l'homme souffre. C'était pas dans le plan de Dieu pour que l'homme et la femme aient une vie malheureuse. De leur faire comprendre que cette situation existe depuis la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, à cause de leur désobéissance à Dieu et à cause de leur obéissance à Satan le diable, qui est le père de tous les méchants. Il leur fait savoir aussi que, heureusement, Dieu fait une promesse à tous ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur. Si nous lisons dans Jérémie 29, versets 11 à 13, c'est la promesse que Dieu a faite à tous ceux qui se tournent vers lui dans Jérémie 29, versets 11 à 13. Je lis pour vous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est à nous de faire comprendre aux gens que Dieu les aime, à condition qu'ils acceptent de nouer une relation parfaite avec ce Dieu-là. L'Église, on a un rôle à jouer face à cette crise. Et le troisième point, c'est de leur faire comprendre aussi que Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il n'use pas de favoritisme. Dans la détresse, quand on souffre, quand on vit une situation difficile, quand on est sous le poids de la maladie, on a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin d'une aide. Quelle que soit la personne. Que cette aide soit matérielle, morale ou financière, mais on en a toujours besoin. Ces gens qui frappent à nos portes, ils ont besoin de nous. Comme je le disais, à nous de profiter de cette occasion pour leur présenter l'évangile du salut, en leur faisant savoir que Dieu, c'est un Dieu souverain. Il est le créateur de toutes choses. Il est le bon berger. Il peut prendre soin d'eux. Comme le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est le chemin de la paix, parce que ces gens fuient la guerre. Dieu est le chemin de la paix. Il peut leur donner sa paix. Il suffit seulement de nouer une relation sincère avec lui, en l'acceptant comme maître et seigneur, en tant que Dieu d'amour, de compassion, car il est en tout temps un havre de paix, un lieu de repos sûr et inébranlable pour tous ceux qui souffrent et pour les cœurs brisés. Le prophète Isaïe déclare dans au chapitre 25, verset 4, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Vous qui êtes là ce matin, et moi qui vous parle, tel est le message que Dieu nous confie et que nous devons apporter aux victimes des loups de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à notre pasteur Emmanuel pour la Sainte-Seine.